Chapitre 43. Les sangs des spectres. Ainsi, les perturbations affligeant la toparchie de rêve connurent-elles une accalmie lorsque, alors qu'ils cessaient de réprimer leur dissension civile, Nalan Elin prit enfin sur lui-même d'accepter les Clivessieux, qu'il avait désignés comme maîtres, quoiqu'il eût rejeté leurs avances initiales, et dans son propre intérêt, il refusa d'encourager ce qui paraissait à ses yeux une quête aussi vaine qu'astreignante. Il fut, d'entre les héros, le dernier à accepter un tel parrainage. Extrait du livre des Radieux, chapitre 5, page 17. Le camp de guerre était toujours animé malgré l'heure. Elle ne s'en étonna pas. Son séjour à Carbrant lui avait appris que tout le monde ne traitait pas l'arrivée de la nuit comme une raison de cesser de travailler. Ici, il y avait presque autant de gens dans les rues que lors de sa première traversée. Et pratiquement personne ne lui prêtait attention. Pour une fois, elle ne se sentait pas trop voyante. Même à Carbrant, les gens lui lançaient des coups d'œil. La remarquaient, l'étudiaient. Certains avaient pensé la dévaliser. D'autres avaient réfléchi à des moyens de l'exploiter. Une jeune palyrisse sans escorte digne de ce nom se distinguait et pouvait représenter une occasion. Cependant, tant qu'elle arborait des cheveux noirs et des yeux marrons foncés, elle était pratiquement invisible. C'était formidable. Shallan sourit et fourra les mains dans les poches de son manteau. Cette sage main gantée l'embarrassait toujours, bien que personne n'y accorde le moindre coup d'œil. Elle atteignit un croisement. Dans l'une des directions, le camp de guerre brillait de torches et de lanternes à huile. À marcher, assez animé pour que personne n'ose laisser de sphère dans les lampes. Shallan se dirigea vers lui. Elle serait plus en sécurité dans les rues les plus fréquentées. Ses doigts firent crisser le papier dans sa poche, et lorsqu'elle sortit, elle s'arrêta pour attendre qu'un groupe de gens en train de bavarder lui cède le passage. La carte semblait assez facile à décrypter. Il lui suffisait de trouver des repères. Elle attendit, puis comprit enfin que le groupe qui se trouvait devant elle ne bougerait pas. Elle s'attendait à ce qu'il lui témoigne la même déférence qu'à une palyrisse. Elle les contourna, secouant la tête et se maudissant de sa bêtise. Il en fut ainsi tout du long. Elle dut se faufiler péniblement entre les gens et se fit souvent bousculer en marchant. La circulation de ce marché évoquait de fleuves coulant en sens inverse, avec les boutiques d'un côté et les marchands qui proposaient de la nourriture au milieu. Il était même, par endroits, couvert par des hauts vents qui s'étiraient jusqu'au bâtiment des deux côtés. Le marché n'était large que d'environ 10 pas, et il y régnait une pagaille oppressante et bruyante. Shallan adorait ça. Elle se surprit à vouloir s'arrêter pour dessiner la moitié des gens qu'elle croisait. Ils semblaient tous tellement vivants, qu'ils soient en train de marchander ou simplement de se balader avec un ami, tout en mâchonnant un encas. Pourquoi n'était-elle pas sortie davantage à Carbrant ? Elle fit halte pour sourire à un homme qui donnait un spectacle avec des marionnettes et une boîte. Un peu plus loin, un Erdasien utilisait un clic-flamme et une sorte d'huile pour faire jaillir des flammes dans les airs. Si elle pouvait juste s'arrêter un bref instant et en faire un croquis. Non, elle avait du travail. De toute évidence, une partie d'elle n'avait pas envie d'aller jusqu'au bout et son esprit cherchait à la distraire. Elle était de plus en plus consciente de ce réflexe de défense. Elle l'utilisait, et elle en avait besoin, mais elle ne pouvait pas le laisser contrôler sa vie. Elle s'arrêta bel et bien devant la charrette d'une femme qui vendait des fruits glacés. Ils étaient rouges et paraissaient juteux, et ils avaient été transpercés d'un bâtonnet avant d'être plongés dans du sucre fondu bien lisse. Shallan tira une sphère de sa poche et la lui tendit. La femme s'immobilisa en regardant fixement la sphère. D'autres s'arrêtèrent tout près. Quel était le problème ? Il ne s'agissait que d'une marque d'émeraude. Ce n'était pas comme si elle avait sorti le brome. Elle regarda les glyphes qui détaillaient les prix. Un bâtonnet de fruits glacés ne coûtait qu'une seule claire marque. Elle n'avait jamais dû prêter beaucoup d'attention aux valeurs de sphère. Mais si elle avait bonne mémoire, sa marque valait 250 fois le prix de la friandise. Même lorsque sa situation était tendue, sa famille n'y aurait jamais vu une somme si grande. Mais c'était là l'ordre de prix d'une maison, pas celui des vendeurs des rues et des ouvriers sombres iris.
Je ne crois pas pouvoir vous rendre la monnaie là-dessus, déclara la femme. Citoyenne.
C'était un titre qu'on donnait à des riches sombres iris du premier ou du deuxième nan. Shallan rougit.
combien de fois allait-elle démontrer l'étendue de sa naïveté ?
C'est pour l'une de vos friandises et pour vous demander votre aide. Je suis nouvelle dans les parages. J'aurais bien besoin de quelques indications.
C'est cher payé pour se faire indiquer le chemin, mademoiselle, répondit la femme, qui empocha néanmoins la sphère de ses doigts habiles.
Il faut que je trouve la rue de Nard.
Ah ! Vous partez dans le mauvais sens, mademoiselle. Reprenez le marché à contresens et tournez à droite. Vous allez devoir remonter. Voyons, 6 pâtés de maison ? C'est facile à trouver. Le haut prince a obligé tout le monde à disposer les immeubles en carré, comme dans une vraie ville. Cherchez les tavernes et vous y serez.
Mais, mademoiselle, si je puis me permettre, je ne crois pas que quelqu'un comme vous doive se rendre dans ce genre d'endroit.
Même en tant que sombre iris, les gens la croyaient incapable de s'occuper d'elle-même.
Merci,
répondit Chalan en choisissant l'un des bâtonnets de fruits glacés. Elle s'éloigna d'un pas pressé, remontant le courant pour rejoindre ceux qui traversaient le marché en sens inverse.
Motif,
murmura-t-elle. Il était accroché à l'extérieur de son manteau, près des genoux.
Traîne un peu en arrière et regarde si on me suit,
lui demanda Chalan.
Tu crois pouvoir faire ça ?
S'ils viennent, ils obéiront à un motif, déclara-t-il en se laissant tomber à terre. Un bref instant, suspendu dans les airs entre pierre et manteau, il forma une sombre masse de lignes sinueuses. Puis il disparut comme une goutte d'eau atteignant un lac. Chalan s'empressa de suivre le courant, serrant bien fort la bourse de sphère dans la poche de son manteau, tenant le bâtonnet de fruits dans sa libre main. Elle se rappelait trop bien comment Jasna, en affichant délibérément trop d'argent à Carbrant, avait attiré des voleurs comme l'eau des tempêtes attire les lianes. Chalan suivit les indications, et son sentiment de libération céda la place à la nervosité. Le coin auquel elle tourna pour quitter le marché la conduisit vers une chaussée nettement moins fréquentée. La marchande de fruits cherchait-elle à la guider vers un piège où l'on pourrait facilement la dévaliser ? Tête baissée, elle avança précipitamment le long de la route. Elle ne pouvait pas spiricanter pour se protéger comme Jasna l'avait fait. Bourrasque. Chalan n'avait même pas réussi à enflammer des brindilles. Elle doutait d'être en mesure de transformer des corps vivants. Elle possédait le don de tisser la flamme, mais elle s'en servait déjà. Pouvait-elle tisser une deuxième image en même temps ? Comment son déguisement tenait-il d'ailleurs ? Il devait vider ses sphères de leur flamme. Elle faillit les sortir pour vérifier quelle quantité avait disparu, mais s'interrompit. Quelle idiote ! Elle craignait qu'on la dévalise, mais elle envisageait de dévoiler une poignée d'argent. Elle s'arrêta 2 pâtés de maison plus loin. Quelques personnes empruntaient cette rue, des hommes en vêtements d'ouvriers qui rentraient chez eux pour la nuit. Ici, les bâtiments étaient beaucoup moins riches que ceux qu'elle venait de laisser derrière elle. « Personne ne suit », déclara Motif à ses pieds. Chalan sursauta quasiment jusqu'au toit. Elle leva sa libre main vers sa poitrine, inspira et expira profondément. Elle se croyait réellement capable d'infiltrer un groupe d'assassins. Son propre spren l'effrayait parfois. Tin affirmait, songea-t-elle, que rien ne m'en apprendrait autant que l'expérience personnelle. Je vais simplement devoir tâtonner en aveugle les premières fois, en espérant m'habituer avant de me faire tuer.
Allons-y, déclara Chalan. Le temps presse.
Elle se remit en marche tout en attaquant son fruit. Il était délicieux, bien que sa nervosité l'empêche d'en profiter pleinement. La rue des tavernes se trouvait en réalité à 5 pâtés de maison, et non pas 6. Le papier de Chalan, de plus en plus froissé, désignait le lieu de rendez-vous comme un immeuble en face d'une taverne dont les fenêtres laissaient échapper une lumière bleue. Chalan jeta le bâtonnet de son fruit en atteignant l'immeuble. Il ne devait pas être très vieux. Rien dans ces camps de guerre ne pouvait avoir plus de 5 ou 6 ans. Mais il paraissait ancien. Les pierres étaient usées. Les volets pendaient de travers par endroits. Elle s'étonnait qu'une tempête majeure n'ait pas renversé et emporté l'ensemble. Parfaitement consciente qu'elle risquait de s'aventurer dans l'antre du palais Chine pour lui servir de dîner, elle s'avança et frappa. La porte fut ouverte par un sombre iris massif comme un rocher qui portait une barbe taillée comme celle d'un mange-corne. Ses cheveux semblaient bel et bien comporter quelques touches de roue. Elle résista à l'impulsion de se balancer d'un pied sur l'autre tandis qu'il la jaugeait de la tête aux pieds. Enfin, il ouvrit la porte et d'un geste de ses doigts épais, il lui fit signe d'entrer.
Elle remarqua la grande hache appuyée juste à côté de lui contre le mur, faiblement éclairée par l'unique lampe à fulgiflamme, qui semblait ne contenir qu'une seule sphère. Shallan prit une profonde inspiration, puis entra. L'endroit sentait le renfermer. Elle entendit de l'eau couler un peu plus loin à l'intérieur. De l'eau de tempête qui s'infiltrait inexorablement depuis un toit fuyant et descendait jusqu'au sol. Le garde la guida le long du couloir sans lui parler. Le sol était fait de bois. Il y avait quelque chose, dans le fait de marcher sur du bois, qui lui donnait l'impression qu'elle allait passer à travers. Il semblait grincer à chaque pas. La pierre solide ne faisait jamais rien de tel. Le garde désigna une ouverture dans le mur, et Shallan scruta les ténèbres qui régnaient au-delà. Des marches qui descendaient. Non, des bourrasques. Que suis-je en train de faire ? Témoigner de l'audace, voilà ce qu'elle était en train de faire. Shallan jeta un coup d'œil au garde brutal et haussa un sourcil, forçant sa voix à rester calme.
Vous vous êtes vraiment surpassé pour le décor. Combien de temps avez-vous dû chercher pour trouver un repère dans les plaines brisées qui possède un escalier aussi sinistre ?
Le garde sourit, à la grande surprise de Shallan. Il n'en paraissait pas moins intimidant pour autant.
« L'escalier ne va pas s'effondrer sous mes pas, dites-moi »
demanda-t-elle.
« Rien à craindre, » répondit-il d'une voix étonnamment aiguë. « Il ne s'est pas effondré sous les miens, et j'ai pris deux petits déjeuners aujourd'hui. »
Il se tapota l'estomac.
« Allez-y, ils vous attendent. »
Elle sortit une sphère pour s'éclairer et entreprit de descendre l'escalier. Les murs de pierre avaient été taillés. Qui pouvait se donner assez de mal pour creuser un sous-sol en dessous d'un immeuble en train de pourrir ? La réponse s'imposa lorsqu'elle remarqua plusieurs longues coulées de crémons sur le mur. Elle rappelait un peu la cire coulant le long d'une bougie, et s'était durcie longtemps auparavant pour former de la pierre. « Ce trou était là bien avant l'arrivée des Aleti, » songea-t-elle. Lorsqu'il avait établi son camp de guerre, Sébarial avait construit ce bâtiment au-dessus d'un sous-sol préexistant. Les cratères des camps de guerre avaient dû abriter des gens autrefois. Il n'y avait pas d'autre explication. Qui était-il ? Le peuple Nathan de Naguère ? Les marches conduisaient vers une petite pièce vide. Qu'il était curieux de découvrir un sous-sol dans un bâtiment aussi délabré. En temps ordinaire, on n'en trouvait que dans les foyers aisés, car il y avait de nombreuses précautions à prendre pour éviter les inondations. Shallan croisa les bras, perplexe, jusqu'à ce qu'un coin du sol s'ouvre en baignant la pièce de lumière. Elle recula, retenant son souffle. Une partie du sol de pierre était factice, masquant une trappe. Le sous-sol possédait lui-même un sous-sol. Elle s'avança jusqu'au bord du trou et vit une échelle qui descendait vers un tapis rouge et de la lumière presque aveuglante après la pénombre dans laquelle Shallan venait d'être plongée. Cet endroit devait connaître de sérieuses inondations après les tempêtes. Elle monta sur l'échelle et descendit au sous-sol en se réjouissant de porter un pantalon. La trappe se referma au-dessus d'elle. Il semblait y avoir un système de poulies. Elle bondit sur le tapis et se retourna pour découvrir une pièce dont le luxe frôlait l'incongruité. Une longue table à manger en parcourait le centre. Et elle scintillait de gobelets en verre sertis de gemmes. Leur éclat baignait la pièce tout entière. Des étagères longeaient les murs, chargées de livres et de bibelots. La plupart se trouvaient à l'intérieur de petites vitrines. Des trophées, peut-être ? Sur la demi-douzaine de personnes qui se trouvaient dans la pièce, l'une d'entre elles attira particulièrement son attention. Le dos bien droit, avec des cheveux noirs de jais, il portait des habits blancs et se tenait devant le foyer crépitant de la pièce. Il lui rappelait quelqu'un, un homme de son enfance. Le messager aux yeux souriants, l'énigme qui en savait tant. Deux aveugles attendaient à la fin d'une époque, contemplant la beauté. L'homme se retourna, dévoilant des yeux violets clairs et un visage couturé de cicatrices anciennes, parmi lesquelles une coupure qui lui courait le long de la joue et déformait sa lèvre supérieure. Bien qu'il paraisse raffiné, avec son gobelet de vin dans la main gauche et son costume si élégant, son visage et ses mains racontaient une autre histoire. Elle parlait de bataille, de mise à mort et de querelle. Ce n'était pas le messager du passé de Shallan. L'homme leva la main droite, dans laquelle elle découvrit une sorte de long roseau. Il le plaça contre ses lèvres et l'y tint comme une arme dirigée vers Shallan. Elle se figea sur place, incapable de bouger, regardant fixement cette arme à travers la pièce. Enfin, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Une cible était suspendue au mur sous la forme d'une tapisserie où figuraient plusieurs créatures. Avec un petit cri, Shallan sauta sur le côté, juste avant que l'homme ne souffle sur son arme et ne tire une petite fléchette à travers les airs. Elle la frôla à quelques centimètres avant d'aller se planter dans l'une des silhouettes de la tapisserie murale. Shallan leva sa sage main vers sa poitrine et prit une profonde inspiration. « Calme-toi, » se dit-elle. « Calme-toi. »
« Ainsi donc, » déclara l'homme en baissant la sarbacane, « Tine est souffrante. »
Le calme de sa voix fit frissonner Shallan. Elle ne parvenait pas à identifier son accent.
« Oui, »
répondit-elle en retrouvant son souffle. L'homme posa son gobelet près de lui, sur le dessus de la cheminée, puis tira une autre fléchette de la poche de sa chemise. Il l'inséra précautionneusement dans l'extrémité de la sarbacane.
Elle ne me paraît pas du genre à laisser quelque chose d'aussi insignifiant l'empêcher d'assister à un rendez-vous important.
Il leva les yeux vers Shallan, sa sarbacane chargée. Ses yeux violets ressemblaient à du verre et son visage marqué de cicatrices n'affichait aucune expression. La pièce semblait retenir son souffle. Il avait percé son mensonge à jour. Shallan se sentit baigné d'une sueur froide.
« Vous avez raison, » répondit-elle. « Tine est en pleine forme. Cependant, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Jasna Colline est morte, mais la mise en œuvre de l'assassinat a manqué de rigueur. Tine a estimé plus prudent de passer par une intermédiaire pour l'heure. »
L'homme étrécit les yeux, puis leva enfin son roseau et souffla d'un coup brusque. Shallan sursauta, mais la fléchette ne la toucha pas, et à la place, vola pour aller atteindre la tenture murale.
« Elle dévoile sa nature de lâche, » dit-il. « Vous êtes venu ici de votre plein gré, sachant que je risquais de me contenter de vous tuer pour ces erreurs. »«
Toute femme doit bien commencer quelque part, Clarissime, » répliqua Shallan, dont la voix tremblait perfidement. « Je ne peux pas me frayer un chemin à coups de griffes sans prendre quelques risques. Si vous ne me tuez pas, j'aurai eu l'occasion de rencontrer des gens auxquels Tine ne m'aurait sans doute jamais présenté. »«
Audacieux, » commenta-t-il.
Il fit un geste de deux doigts, et l'une des personnes assises près de la cheminée, un paliris grêle aux dents si grandes qu'il devait avoir du sang de rat dans les veines, s'avança précipitamment et laissa tomber quelque chose près de Shallan sur la longue table. Un sac de sphères. Il devait contenir des bromes, bien qu'il soit marron foncé. Il brillait d'un éclat vif.
« Dites-moi où elle est, et vous aurez peut-être cet argent, »
déclara l'homme au visage marqué de cicatrices en tirant une nouvelle fléchette.
« Vous avez de l'ambition. » Ça me plaît. Non seulement je vais vous payer pour apprendre où elle se trouve, mais je vais tenter de vous trouver une place dans mon organisation.
Veuillez me pardonner, Clarissime, répondit Shallan, mais vous savez bien que je ne vais pas vous la livrer.
Il devait tout de même bien percevoir sa peur, la sueur qui trempait la doublure de son chapeau, qui coulait le long de ses tempes. En effet, des sprènes de peur traversaient le sol en se tortillant à côté d'elle, bien que la table les masque peut-être à son interlocuteur.
« Si j'étais disposée à trahir Tine pour de l'argent, de quelle valeur pourrais-je bien vous être ?»«
Vous sauriez que j'en ferais de même pour vous, pour peu qu'on m'offre une prime assez conséquente. »«
De l'honneur ?» demanda l'homme toujours inexpressif, en pinçant une fléchette entre deux doigts. « Chez une voleuse ?»«
Encore une fois, Clarissime, je vous demande pardon, » implora Shallan, « mais je ne suis pas une simple voleuse. »«
Et si je devais vous torturer ?» Je vous assure que je pourrai obtenir les informations ainsi.
Je n'en doute pas un instant, Clarissime, répondit Shallan. Mais croyez-vous vraiment que Tine m'enverrait ici si je savais où elle se trouve? Quel serait alors l'intérêt de me torturer?
Eh bien, répliqua-t-il en baissant les yeux et en insérant la fléchette en place.
Pour commencer,
ce serait amusant.
Respire, se dit Shallan, lentement, normalement.
C'était difficile d'y parvenir.
« Je crois que vous n'en ferez rien, Clarissime. »
Il leva le roseau et souffla d'un geste rapide. La fléchette alla se planter dans le mur avec un bruit sourd.
« Et pourquoi ça ?»«
Parce que vous ne me semblez pas du genre à gaspiller quelque chose d'utile. »
Elle désigna les reliques dans leur boîtier de verre.
« Vous présumez m'être utile ?»
Shallan leva la tête et le fixa droit dans les yeux.
« Oui, »
Il soutint son regard. Le feu crépita.
« Très bien », déclara-t-il enfin en se tournant vers le feu et en reprenant sa coupe.
Il tenait toujours le roseau d'une main, mais buvait de l'autre en tournant le dos à Shallan. Elle se sentait comme une marionnette dont on aurait tranché les fils. Elle soupira de soulagement, les jambes flageolantes, et se rassit dans l'un des sièges près de la table à manger. Les doigts tremblants, elle sortit un mouchoir et s'épongea les tempes et le front en repoussant son chapeau. Lorsqu'elle s'arrêta pour ranger son mouchoir, elle s'aperçut que quelqu'un avait pris le siège à côté du sien. Shallan ne l'avait même pas vu bouger, et sa présence la fit sursauter. Ce petit homme à la peau hâlée portait une sorte de masque de carapace attaché à son visage, très serré. En réalité, on aurait dit que la peau s'était curieusement mise à pousser autour des bords du masque. Cet assemblage de fragments de carapace rouge-orangé ressemblait à une mosaïque et laissait entrevoir des sourcils et deviner une impression de colère et de fureur. Derrière ce masque, une paire d'yeux noirs la fixait sans ciller, et une bouche et un menton impassibles étaient également laissés à nu. L'homme ? Non. La femme. Shallan remarqua le léger relief et la forme du torse. La sage main exposée l'avait désarçonné. Shallan s'empêcha de rougir. La femme portait des vêtements bruns sombres très simples, attachés à la taille à l'aide d'une ceinture complexe, ornée d'autres fragments de carapace. Quatre autres personnes en tenue aléti, plus traditionnelle, bavardaient tout bas près du feu. L'homme de haute taille qui l'avait questionné n'ajouta rien.
« Clarissime ?»
demanda Shallan en se tournant vers lui.
« Je réfléchis, » répondit-il. « Je m'attendais à vous tuer et à pourchasser Tine. Vous lui direz qu'elle aurait très bien pu venir me voir elle-même. Je ne suis pas furieux qu'elle n'ait pas trouvé les informations que possédait Jasna. J'ai engagé la chasseuse qui me semblait la plus appropriée pour cette tâche, et j'en comprenais les risques. Colline est morte, et Tine devait y parvenir, coûte que coûte. Je ne l'ai peut-être pas félicitée pour ce travail, mais j'en ai été satisfait. Cependant, décidée de ne pas venir s'expliquer en personne, cette lâcheté me retourne l'estomac. Elle se cache comme une proie.
Il but une gorgée de vin.
Vous n'êtes pas une lâche. Elle a envoyé quelqu'un dont elle savait que je ne la tuerais pas. Elle a toujours été maligne.
Génial. Qu'est-ce que cela signifiait pour Shallan ? Elle se leva de son siège avec hésitation, désireuse de s'éloigner de cette étrange petite femme dont les yeux ne clignaient jamais. À la place, Shallan en profita pour inspecter la pièce plus en détail. Où partait la fumée du feu ? Avait-il taillé un conduit de cheminée qui descendait jusqu'ici ? Le mur de droite comportait le plus grand nombre de trophées, parmi lesquels plusieurs énormes cœurs de gemmes. À eux tous, ils devaient valoir plus que les propriétés du père de Shallan. Fort heureusement, ils n'étaient pas infusés. Même non taillés comme ils l'étaient, ils brilleraient sans doute assez pour l'aveugler. Il y avait également des ossements que Shallan reconnaissait vaguement. Cette défense devait provenir d'un paléchine, et cette orbite semblait effroyablement proche de la structure du crâne d'un centide. D'autres curiosités la déroutaient. Un flacon de sable pâle, une poignée de grosses épingles à cheveux, une mèche dorée, une branche d'arbre sur laquelle figurait une inscription qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, un couteau d'argent, une fleur étrange préservée dans une sorte de solution. Il n'y avait pas de plaque pour présenter ses souvenirs. Ce morceau de cristal rose pâle ressemblait à une sorte de gemme, mais pourquoi était-il si délicat? Il s'était en partie effrité dans son écrin, comme si le simple fait de l'avoir posé avait failli l'écraser. D'un geste hésitant, elle s'approcha du fond de la pièce. De la fumée s'élevait du feu, puis s'enroulait et se tortillait autour d'un objet accroché sur le dessus de la cheminée. Une gemme ? Non, un fabrial. Il recueillait la fumée comme une bobine le faisait pour le fil. Elle n'avait jamais rien vu de tel.